Bonjour à tous. On dit José Quimonio, ou devrais-je vous appeler docteur José Quimonio? Votre article débute en rappelant que la constitution congolaise garantit à la Banque centrale une indépendance conçue précisément pour empêcher que la monnaie nationale et les réserves publiques soient utilisées comme instrument politique. Qu'est-ce qui vous a poussé à intervenir publiquement sur ce sujet et pourquoi maintenant?
Eh bien, José Quimonio, c'est largement suffisant. Pour répondre à votre question, disons que j'ai ressenti la nécessité de prendre la parole parce qu'un glissement inquiétant était en train de se normaliser. La Banque centrale du Congo, qui devrait être un rempart institutionnel, se voyait progressivement transformée en simple outil opérationnel du pouvoir. L'intervention de 50 millions de dollars, présentée comme un geste technique, a provoqué un impact si brutal sur le taux de change et sur la structure même de l'économie que garder le silence aurait été, à mes yeux, une forme de complicité. C'est assez simple, il ne m'est jamais venu à l'esprit que mon rôle serait d'applaudir une illusion de stabilité. Mon rôle, c'est d'exposer les violations des principes qui protègent une nation contre l'arbitraire surtout. Lorsque ces principes sont foulés aux pieds sous prétexte d'urgence ou de technicité.
Dans votre analyse, vous affirmez que certaines actions de la BCC ne relèvent plus d'une simple politique monétaire. Quels éléments juridiques, constitutionnels ou économiques montrent que la Banque centrale a franchi la frontière entre indépendance technique et violation de l'autorité budgétaire?
La Constitution, tout comme la loi organique de la BCC, sont explicites. Aucune dépense ou mobilisation de ressources publiques ne peut contourner le Parlement. Or, dans le cas étudié, l'opération semble avoir mobilisé plus que les seules réserves opérationnelles de la banque. Elle a modifié la structure budgétaire de l'État sans autorisation législative. La nature même de l'intervention, une appréciation forcée du franc de 30, % ne correspond à aucun objectif légal de stabilité monétaire. C'est un acte politique, pas une opération technique. Dès lors qu'une banque centrale se substitue au Parlement, elle viole le principe fondamental de l'autorité budgétaire. Et cela, en RDC comme ailleurs, constitue une entorse constitutionnelle grave.
Vous soulignez également que le gouverneur de la Banque centrale a agi comme si elle pouvait redessiner seule l'architecture économique du pays. En quoi cette pratique diffère-t-elle des standards internationaux de gouvernance monétaire?
Dans toutes les économies qui fonctionnent, l'indépendance de la banque centrale a des limites institutionnelles précises. Elle peut intervenir pour stabiliser les prix ou éviter un effondrement financier, mais elle ne peut pas imposer un changement de modèle économique. En RDC, le gouverneur a publiquement déclaré vouloir forcer les Congolais à abandonner le dollar. C'est pas de la politique monétaire, c'est un choix de société. C'est que dans les standards internationaux, on appelle un changement de régime politique. Une banque centrale ne peut pas décider seule d'une transformation aussi majeure. Cela requiert un débat national, des lois, une vision gouvernementale et non une improvisation monétaire. En s'arrogeant ce pouvoir, Wameso a agi en dehors de tout cadre démocratique et institutionnel reconnu.
Vous expliquez que cette intervention brutale sur le taux de change crée une illusion de soulagement, mais aggrave en réalité les faiblesses structurelles du pays. Quelles sont, selon vous, les conséquences à long terme d'une telle dérive ?
Les conséquences sont multiples et profondes. Premièrement, une appréciation artificielle fragilise les exportateurs et décourage la production locale. Deuxièmement, elle détruit la prévisibilité économique. Commerçants, importateurs et ménages perdent confiance dans les règles du jeu. Troisièmement, sur le plan politique, l'idée qu'on peut manipuler le taux de change à des fins de communication crée un précédent dangereux, celui d'un pouvoir exécutif qui apprend qu'il peut redessiner l'économie sans passer par la loi. À long terme, cela érode les institutions, affaiblit la souveraineté monétaire réelle et enferme le pays dans un cycle de décisions improvisées où la technique sert d'alibi à la politique la plus opportuniste.
Au-delà du geste technique, votre article évoque un problème de gouvernance démocratique qui décide de l'usage du patrimoine national. Comment expliquez-vous que le Parlement, pourtant garant de l'autorité budgétaire, ait été contourné si facilement?
Il y a en RDC une confusion installée depuis longtemps entre urgence politique et légitimité institutionnelle. Le Parlement peine à jouer son rôle, non pas parce que il ne connaît pas les règles, mais parce que il a été habitué à être informé a posteriori plutôt qu'à autoriser a priori. Lorsque la Banque centrale agit sans transparence, sans cadre légal clair, et surtout sans rendre de compte, c'est souvent parce que les mécanismes de contrôle démocratique sont affaiblis. Dans cette opération, tout a été fait pour présenter la décision comme un acte technique inoffensif. Mais un choc de 30% sur la monnaie nationale n'est jamais neutre. Le Parlement a été contourné non pas par accident, mais parce que cela servait à un objectif politique immédiat. Et tant que cette dérive ne sera pas dénoncée publiquement, elle se répétera.
Dans votre article, vous expliquez que l'empiètement de la Banque centrale sur le domaine de l'autorité budgétaire, combiné à l'usage d'une contrainte monétaire recherchant un effet politique immédiat, justifie que des élus réclament la démission du gouverneur de la Banque centrale. Pourquoi estimez-vous que cette démission est indispensable au fonctionnement démocratique de la RDC ?
Sa démission n'a rien d'une vengeance et ne constitue pas une sanction personnelle. C'est un acte de sauvegarde institutionnelle. Lorsqu'une banque centrale utilise les réserves nationales pour produire un résultat politique, elle porte directement atteinte à la souveraineté budgétaire du Parlement, qui est le cœur battant de la démocratie. Dans un cas pareil, un élu comme Godet Poilly, non pas en tant que professeur ou pasteur, mais en tant que représentant du peuple, a non seulement le droit, mais le devoir de demander un tel départ. Cela rappelle que les institutions ne sont pas des propriétés privées, mais des organes placés sous le contrôle de la nation.
Au-delà de l'aspect institutionnel, vous évoquez dans votre conclusion que la démission de Wamsow pourrait même être une opportunité personnelle et un recentrage pour la Banque centrale. Que voulez-vous dire par là ?
Pour Wamsow lui-même, cette démission pourrait être l'occasion de retourner sur les bancs universitaires, d'approfondir la distinction entre politique monétaire et politique économique, et peut être même de produire un travail scientifique rigoureux qui aiderait à dissiper la confusion intellectuelle qui semble hanter sa pensée et celle de son entourage. Mais surtout, un départ assumé ou imposé par le Parlement permettrait enfin un recentrage profond de la Banque centrale, la ramenant dans le giron de la légalité, de la responsabilité et des principes démocratiques fondamentaux. En d'autres termes, ce geste ouvrirait la voie à une véritable reconstruction institutionnelle indispensable à la stabilité du pays.